Bonjour, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actualité internationale de la semaine qui nous emmènera à Moscou. La Russie est-elle vraiment isolée dans le dossier syrien? À Sanaa, au Yémen, où l'Arabie Saoudite poursuit ses massacres. Washington, qui sera élu dans 3 semaines président des États-Unis avec une campagne qui verse dans le crapoteux? Et puis, Varsovie, la Pologne a-t-elle fait un sale coup à Airbus dans un contrat raté d'hélicoptère? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Professeur de relations internationales à Paris Business School et auteur avec Yves Lacoste, votre maître en géopolitique de la nation France. Tiens, petite question comme ça. La France est-elle toujours une grande puissance?
Ah, non seulement c'est toujours une grande puissance, mais elle montre en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, sauf que c'est une grande puissance pauvre. Autrement dit, elle peut faire un certain nombre de choses, mais elle ne peut pas, bien évidemment, faire autant, par exemple, par seul exemple, que les États-Unis d'Amérique, qui sont la seule grande puissance riche de ce monde. Mais oui, la France est encore une grande puissance et elle assume ce rôle aujourd'hui sur plusieurs continents.
Jean-Christophe Loquin, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef dans le quotidien La Croix et qui anime le blog Paris Planète, hébergé justement sur le site de La Croix. Alors, blocage ou pas, la Russie, qui depuis 3 semaines, vous le savez, pilonne Alep avec l'armée syrienne, sans aucune modération. Elle s'est retrouvée bien seule le week-end dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies en brandissant son veto au projet de résolution français ordonnant l'arrêt immédiat des frappes sur Alep. Même la Chine, elle n'a pas suivi la Russie. Alors, entre-temps, la visite de Vladimir Poutine la semaine prochaine à Paris a été annulée. On va y revenir évidemment dans le détail dans 7 jours dans le monde. Menace de la France, du Royaume-Uni sur une saisine de la CPI. Et en même temps, on voit que le contact n'est pas tout à fait rompu, justement, avec ces réunions ce samedi à Lausanne, Kerry et Lavrov, et les pays de la région, et puis ce dimanche à Londres, France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni. En tout cas, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, il pense qu'une solution peut être trouvée.
Et le massacre continue. Donc l'appel que je lance, c'est qu'on arrête ce massacre, qu'on sauve la population d'Alep. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix.
Voilà, il n'est jamais trop tard, dit le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, une solution peut être trouvée. Frédéric Ancel, il y a un sursaut de diplomatie ce week-end?
Non, une solution sera trouvée lorsque les 200 000 habitants de Alep Est auront été évacués. Alors on fera passer ça pour une victoire, ce sera une victoire humanitaire car enfin ces gens-là pourront sortir de l'enfer, mais bien évidemment sur le plan politique et militaire ça signifiera la victoire définitive, complète d'Assad et de ses alliés iraniens, Hezbollah, libanais et russes bien évidemment, puisque avec l'Est d'Alep qui tombera entre les mains d'Assad, eh bien ce sera la dernière partie de la dernière des 4 seules villes, seules vraies grandes villes de la Syrie qui restera entre, ou qui reviendra plus exactement aux mains d'Assad. Autrement dit, c'est vraiment en contrepartie de cet accord humanitaire qui, à mon avis, va se profiler dans les prochains jours.
Oui, parce que la Russie, elle se disait prête en fin de semaine à assurer un retrait dit sécurisé, donc, aux rebelles d'Alep. Voilà. C'est une manœuvre ou pas de la part des Russes?
Ah, mais bien évidemment que c'est une manœuvre. Et une fois que ça sera fait, il n'y aura plus, en quelque sorte, de dépine humanitaire ou morale, dans le talon de Poutine. Une dépine, d'ailleurs, qui n'a pas l'air de le gêner beaucoup. Sur le plan moral, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais politiquement et militairement, ça signifiera très concrètement la victoire d'Assad et des bombardements russes sur Alep.
Donc, pas de changement de stratégie de la part de la Russie, Jean-Christophe Loquin?
La Russie, elle cherche pas à bombarder les civils pour le plaisir de bombarder les civils. Elle cherche à débusquer, effectivement, à bombarder les rebelles qui sont aujourd'hui dans cette partie est d'Alep et dont un certain nombre sont issus d'Al-Qaïda. Donc il y a quand même un objectif militaire qui est derrière et effectivement la Russie semble déterminée à pouvoir détruire finalement ce qui est perçu comme une menace. C'est la suite un peu du conflit tchétchène. La Russie continue à régler ses comptes avec un certain nombre de groupes islamistes aujourd'hui en Syrie. Et donc effectivement elle va poursuivre. Je pense pas que la Russie, cela dit, soit si isolée que ça. Je pense que on a vu qu'elle venait de signer un accord avec la Turquie sur le gaz, par exemple. La Chine, effectivement, ne l'a pas suivi au Conseil de sécurité, mais ça reste un partenaire fondamental pour soutenir la Russie. Et effectivement, on a vu que le lendemain même où il y avait cette annonce de l'annulation de la visite de Vladimir Poutine en France, eh bien François Hollande parlait avec Poutine de l'Ukraine, avec la chancelière Merkel.
Également.
Donc effectivement, il on peut pas voir la Russie comme totalement isolée. Oui. Elle pèse toujours aussi lourdement sur la scène.
Oui, Frédéric Ancel, ce veto russe soutenu seulement par qui ? Dites-moi par qui il a été soutenu ce veto ?
Par le Venezuela.
Le Venezuela, exactement. Forcément. Voilà, très bien. Voilà, c'est pour
et
ça.
Et puis,
je crois
alors,
ça confirme ou pas le week-end dernier cette fracture qu'on voit de plus en plus entre Est et Ouest ? Certains parlent de retour de la guerre froide. Exagéré ?
Non, ce n'est pas exagéré. Alors, c'est une nouvelle guerre froide. Ce que le retour signifierait, une guerre froide de même nature. C'est autre chose. Hein. L'histoire ne repasse jamais les plats, sauf qu'elle peut très bien en repasser de différents. Mais elle passe toujours des plats. Le Venezuela, ajoutons, et c'est très important, et je rebondis sur ce qui vient d'être très bien dit, que l'Égypte ne s'est pas opposée à la Russie. Or, l'Égypte est militairement alliée des États-Unis depuis Camp David en 78. On voit aussi des pays du Pacifique et de l'Asie orientale, comme les Philippines, à Canossa. Les Philippines sont alliées depuis 1898 au moins, hein. D'abord colonisées, puis alliées aux États-Unis, commencer à flirter avec Poutine. Alors oui, vous avez raison, c'est une nouvelle forme de guerre froide, mais je pense qu'elle est notamment nourrie par la faiblesse, ou en tout cas la perception par beaucoup de pays de la faiblesse de Barack Obama. Et il faut bien comprendre que la crise des gaz neurotoxiques, la crise syrienne de septembre 2013, a, me semble-t-il, joué énormément dans l'hésitation de beaucoup de pays aujourd'hui à continuer à suivre, plus ou moins aveuglément, les États-Unis et à aller chercher une forme d'appui ou en tout cas de rééquilibrage en faveur de la Russie de Poutine.
Jean-Christophe.
Un petit point aussi pour montrer que la Russie n'est pas isolée. On voit ce qui se passe sur le marché des hydrocarbures. Il y a un accord qui se dessine entre l'OPEP, la Russie, pour faire repartir à la hausse les prix du pétrole. Ça veut dire que la Russie,
et la prochaine
elle négocie avec l'Arabie Saoudite.
Associera la Russie au pays de l'OPEP.
Exactement.
La Russie qui n'est pas membre de l'OPEP.
Ils sont adversaires finalement à Alep, mais ils sont partenaires sur le marché du gaz et du pétrole. Donc c'est quand même très compliqué.
Intéressant. En tout cas, la Russie communique, montré du doigt par ses massacres à Alep. Le président russe, il était sur TF1 mercredi soir. Il explique la faute à qui, toute cette crise, toutes ces guerres ? Les Américains.
Je suis profondément convaincu que ce sont nos partenaires occidentaux, et en premier lieu, bien sûr, les États-Unis, qui sont responsables de la situation qui s'est formée dans la région en général et en Syrie en particulier. Souvenons-nous de l'enthousiasme délirant au début du printemps arabe. Qu'en est-il maintenant ? Où est donc cet optimisme ? Par quoi tout cela s'est-il soldé ? Rappelons-nous ce qu'étaient la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États, ou du moins anéanti leurs structures étatiques.
Voilà, Poutine sur TF1. Question directe, Frédéric. A-t-il complètement tort, Poutine, quand il dit ça ?
Il n'a pas totalement tort lorsqu'il évoque la chute d'État-nation. Lorsqu'il vote l'Irak ou la Libye. La Libye, c'est d'ailleurs une affaire très personnelle parce que on se souvient qu'en 2011, il s'était abstenu, ainsi que la Chine d'ailleurs, suivant les promesses des Occidentaux de ne pas abattre Kadhafi, et il s'est senti trahi. En même temps, je suis de ceux qui considèrent que ce n'est pas la chute de l'Irak de Saddam Hussein en 2003, qui est à l'origine, comme on l'entend trop souvent, de l'ensemble des malheurs du Moyen-Orient. D'abord, l'Irak était déjà très affaibli depuis 91, et 91, c'est la coalition internationale pour libérer le Koweït. Deuxième point, il eût été stupéfiant que Poutine n'affirma pas tout ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'après tout, il s'agit bien évidemment pour lui de détourner l'attention des bombardements massifs d'Alep, qui certes touchent des terroristes et des barbares au dernier degré, notamment ceux d'Al-Qaïda. Mais enfin, c'est des bombardements à la russe. Donc on ne se questionne absolument pas pour savoir combien de civils vont disparaître en même temps. Et Poutine doit bien évidemment dévier l'attention des opinions publiques. Donc il n'a pas totalement tort. Ses objectifs d'ailleurs ne sont pas ridicules. Il faut souvenir que la Syrie était alliée de l'URSS dès les années 50, le milieu des années 50, et que la seule base dont disposait et dont dispose la Russie sur l'ensemble des deux bassins géostratégiquement fondamentaux que sont la Méditerranée et le Moyen-Orient, c'est Tartous.
Bien sûr.
C'est la Syrie. Donc il ne lâchera pas la Syrie.
D'autant plus, c'est intéressant que vous parliez de Tartous, puisque l'armée russe l'a annoncé cette semaine, elle va construire une base navale permanente, cette fois à Tartous, sur la Méditerranée, donc transformant ses installations portuaires, apparemment conçu comme étant provisoire, le provisoire devenant définitif. Tartous, c'est la clé, c'est la raison principale ou l'une des raisons principales pour laquelle Moscou, justement, fait cette guerre en Syrie ?
Absolument. Sur le plan militaire et sur le plan stratégique, c'est vraiment la raison principale. D'ailleurs, l'essentiel des efforts russes apportés jusqu'à présent sur la défense du réduit montagneux littoral alaouite, c'est-à-dire les deux ports de Tartous et Latakié, les deux seuls vrais ports de Syrie, qui sont pour la Russie des éléments stratégiques très très importants. Le reste, franchement, le désert oriental de Syrie, les régions kurdes au nord, ça n'intéresse plus tellement Assad. D'abord, il sait très bien qu'il n'a plus assez de force pour pouvoir les reconquérir, et c'est pas la Syrie utile. La Syrie utile, notamment pour les Russes, c'est bien évidemment cela, c'est Tartous et l'attaquer.
Ouais. Alors, et pendant ce temps, eh bien, François Hollande tergiversait. Certains diront, une fois n'est pas coutume. Hein. Il s'interrogeait. Il le faisait publiquement, hein, d'ailleurs, au détour d'une interview sur TMC, dans l'émission Quotidien, justement, à propos de la visite de Vladimir Poutine à Paris, prévenue la semaine prochaine pour inaugurer la cathédrale russe orthodoxe. Que disait-il, le président de la République ? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Alors le président russe, lui, il n'a pas hésité, hein, ne voulant pas parler de la Syrie, justement, comme la France le souhaitait. Il renonce à sa visite et il viendra quand le président français sera prêt. Et Jean-Christophe Ploquin de la Croix, c'est sans précédent quand même ce type d'annulation quand même, non ?
C'est un champion de judo, hein, Vladimir Poutine. Ouais. Donc c'est intéressant de voir cette prise là, c'est-à-dire que Hollande a voulu mettre la pression sur Poutine et inversement, finalement c'est Poutine qui met un peu Hollande au sol, effectivement en prenant l'initiative d'annuler directement lui-même cette visite. Donc je pense qu'en fait il y avait un constat de désaccord et que c'est Poutine qui a su le mieux l'assumer.
Frédéric.
Oui, je suis d'accord. Ce qui est d'autant plus étonnant que vous avez parlé il y a un instant, à juste titre, de tergiversation. Eh bien, en matière d'affaires étrangères, jusque-là, Hollande n'était absolument pas considéré comme faible ou comme tergiversant.
Oui, oui.
On l'a bien vu au Mali.
Le Mali,
on l'a vu en Syrie, donc il y a trois ans. On l'a vu en Centrafrique, absolument. Mmh. On l'a vu maintenant, on l'a vu aussi en Irak, avec le déploiement récemment d'une artillerie lourde qui va sans doute précéder la bataille de Mossoul. Là, manifestement, sur le plan diplomatique, il y a eu une erreur dans laquelle s'est engouffré, bien évidemment, allègrement Vladimir Poutine.
Oui,
ouais, ce qui est compliqué, c'est que effectivement la France sait qu'elle doit parler avec la Russie sur tout un tas de domaines, et donc effectivement elle n'a pas voulu braquer Poutine parce qu'il faut continuer à parler avec la Russie sur des investissements français en Russie, sur l'Ukraine, enfin sur un certain nombre de dossiers.
Pardon, vous dites qu'il ne faut pas braquer la Russie, mais quand François Hollande parle clairement de crimes de guerre, justement, quand la France brandit à l'instar du Royaume-Uni la menace d'une saisine de la CPI.
Oui, tout à fait.
Part, est-ce qu'on doit se montrer aussi hostile vis-à-vis de la Russie ?
Alors, je pense que là, il y a vraiment, de la part de la France, la volonté de corneriser un petit peu la Russie, c'est-à-dire de vraiment la mettre devant ses responsabilités et que les responsabilités de la Russie à Alep soient visibles dans le monde entier. Mais effectivement, c'est pas un but en soi. C'est-à-dire que on manifeste cette situation, mais ensuite, il faut arriver à trouver la porte de sortie.
Frédéric Ancel.
Oui, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a 50 ans de cela, Le général de Gaulle sortait du commandement intégré de l'OTAN.
Ah oui.
Pas de l'OTAN, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, mais du commandement intégré.
Bien sûr.
Et la base argumentaire était la suivante: on n'est pas suiviste vis-à-vis des Américains, nous avons notre propre souveraineté, notre propre politique étrangère. Bon. Et il s'agissait de le démontrer, même si c'était assez symbolique. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la France est en pointe par rapport aux États-Unis dans plein de domaines, sur pas mal de zones, y compris sur le plan militaire. Et avec la Russie, aujourd'hui, la France aussi. On voit bien que ces dernières années, Obama a adopté une espèce de valse hésitation avec la Russie. Ça a commencé avec le reset il y a 7 ans de cela. Et puis, une politique qui était censée être plus ferme. Et finalement, Obama se retire maintenant d'un certain nombre de dossiers, notamment de la Syrie, en laissant Poutine, qui il y a 2 ans de cela était absolument pas aussi impliqué, notamment sur le plan militaire en Syrie, faire à peu près ce qu'il veut. Et la France reste, j'ai envie de dire, plus en pointe, plus forte. Et les relations médiocres qui existent aujourd'hui à plusieurs égards entre Paris et Washington sont liées à ça. Hein, en France, on reproche aux États-Unis de ne pas être assez en avance.
Ce que vous expliquez dans Géopolitique de la Nation France, Frédéric Ancel, avec Yves Lacoste. Pendant ce temps, profitant de cette crise, on voit la télévision russe agiter le chiffon rouge. On y parle d'abattre des avions américains au-dessus de la Syrie. On y montre la préparation d'abris antinucléaires à Moscou. On discute d'exercices de défense civile, évacuation d'immeubles, etc. L'agence RIA Novosti, elle évoque une attaque imminente des États-Unis, style opération Barbarossa. Bref, quand on voit ça, on se dit quoi ? La Troisième Guerre mondiale est en route ? Tout ça, on entretient tout ça en Russie. Avec des rumeurs, avec de la panique. Pourquoi?
Je crois que c'est vraiment destiné à l'opinion russe. Hein. Ouais. Il faut vraiment
Un peu.
Que l'opinion russe soit soudée derrière Vladimir Poutine. On voit que Poutine, sur la scène intérieure, ne laisse aucun espace à une opposition démocratique, à une opposition qui aurait vraiment les moyens de le challenger, je dirais, sur ses choix, sur ses orientations, y compris économiques. Et donc, voilà, cette sorte de discours qui n'est pas nouveau. Moi, je me souviens, l'ambassadeur de Russie en France, ça fait quand même plusieurs années qu'il est un petit peu sur ce discours-là, et donc effectivement essayer de brandir un peu cette ambiance de guerre froide, c'est vraiment pour supprimer les espaces de contestation en Russie.
Frédéric.
Lui tendre le ressort des énergies nationales en faisant oublier à la population qu'on est en récession.
Ouais.
Car c'est le cas. Et sur le plan socio-économique, ça va être extrêmement difficile pour Vladimir Poutine, surtout avec un baril à $50, peut-être bientôt 60.
En même temps, il a gagné les élections. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'opposition en face, mais il a gagné largement les élections législatives mi-septembre.
Absolument. En donnant
un score jamais eu. Hein.
Absolument, en donnant notamment à manger du nationalisme. Et ça marche partout, peut-être plus particulièrement en Russie.
Alors, pendant qu'Alep est pilonné, eh bien, l'Arabie Saoudite, elle continue ses bombardements sur le Yémen. Hein. Ça fait un an et demi, dans l'indifférence la plus totale. Hein. Alors, sauf peut-être le week-end dernier quand même, quand la chasse saoudienne a touché une cérémonie funéraire donc dans la capitale, Sanaa, faisant 140 morts, plus de 500 blessés, et parmi les victimes, l'élite du pays, des grandes personnalités du Yémen. Alors volontaire ou pas, en tout cas ce bombardement a quand même suscité de nombreuses protestations, j'allais dire pour une fois. Il faut rappeler, tiens Frédéric Ancel, depuis mars 2015, l'Arabie Saoudite, elle est à la tête d'une coalition de pays arabes qui vient donc frapper, lutter contre la rébellion chiite houthi alliée à l'ancien président Saleh.
C'est ça. Alors une coalition qui au départ se voulait arabe, puis musulmane, et qui englobe maintenant des pays comme le Gabon, qui à ma connaissance n'est pas musulman,
non.
Et plusieurs d'autres pays d'Afrique subsaharienne. C'est une coalition qui n'a de réalité que le nom, parce que la plupart des États n'interviennent absolument pas dans cette coalition, et pour l'essentiel, cette coalition se contente de frapper par voie aérienne. Et l'essentiel des efforts aériens est assuré par l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que les pilotes ne veulent pas ou ne savent pas viser correctement. Et je le dis sans sourire parce qu'effectivement, ça fait énormément de dégâts. Et on le sait, dans les armées occidentales, on suit bien évidemment ce qui se passe de très très près. Et manifestement, la chasse saoudienne est absolument lamentable sur le plan militaire. Ne parlons même pas de la moralité du fait de frapper des civils ou d'avoir comme dégâts collatéraux, entre guillemets, un nombre très important de civils au Yémen. Mais parlons même de la compétence des pilotes qui posent réellement problème.
Mais avant de s'interroger sur la compétence des pilotes, qu'est-ce qu'elle veut l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'elle vise?
Alors elle vise bien évidemment l'Iran. Vous avez une guerre froide aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, hein, QG du sunnisme et QG du chiisme, on l'a dit à plusieurs reprises, deux puissances respectivement tutélaires de ces deux grandes branches de l'islam, et l'Arabie Saoudite accuse, pas totalement à tort, hein, l'Iran de tenter de faire monter en puissance des groupes et des communautés chiites un peu partout dans la péninsule arabique. Or, lorsque vous regardez une carte de la péninsule, vous voyez qu'un certain nombre de communautés chiites plus ou moins importantes existent et entoure en quelque sorte l'Arabie Saoudite. En tout cas sur le flanc sud, est et nord.
Donc le Yémen, Bahreïn aussi.
La plaine du Hassa pétrolifère à l'est du royaume. Et puis au nord, c'est l'Irak. Et tout le sud de l'Irak est chiite.
Et bien entendu, tout juste, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, puis le Yémen, c'est quand même l'arrière-cour un peu de l'Arabie Saoudite. Oui. C'est un pays qui est très proche de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, à un moment, avait des revendications territoriales sur le Yémen. Donc il y a un contentieux qui est très ancien. Une habitude de l'Arabie Saoudite de gérer les affaires du nord du Yémen. Et d'ailleurs, les tribus houthis, qui sont aujourd'hui l'adversaire de l'Arabie Saoudite, ont été des alliés de l'Arabie Saoudite il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, manifestement, ne parvient pas à assurer une régulation au Yémen, et effectivement cette stratégie militaire ne fait que pourrir encore un peu plus la situation.
Il y a un enlisement ou pas de l'Arabie Saoudite dans cette guerre qui dure depuis un an et demi, Jean-Christophe?
En tout cas, il y a aucune avancée sur le plan politique. Hein. Il y a toujours effectivement le président qui est plus ou moins reconnu par la communauté internationale se trouve en Arabie Saoudite. L'ancien président, lui, est au Yémen, mais effectivement allié avec ceux qu'il avait combattu auparavant. Donc c'est vraiment des cartes qui sont extrêmement mélangées. Il y a à Al-Qaïda qui se promène un petit peu plus à l'est aussi, au Yémen. Donc voilà, ce pays totalement effondré, c'est de toute façon très compliqué de le reconstituer, un peu comme la Libye finalement. Et l'Arabie Saoudite, de toute évidence, n'a pas les moyens politiques, diplomatiques et militaires pour, à elle seule, arriver à stabiliser la situation.
Un pays de tribu, Frédéric Ancel.
Voilà, vous avez prononcé le terme très important, c'est un pays totalement tribal. On fonctionne de façon tribale. Les rapports de force sociaux, sociétaux se font sur cette base-là, comme d'ailleurs en Libye, hein, dans une large mesure. Ce sont sans doute deux des pays arabes les plus tribaux en quelque sorte. Et l'Arabie Saoudite ne se donne pas les moyens militaires de sortir de cet enlisement moral et politique, simplement parce qu'elle ne se bat pas. L'armée saoudienne ne se bat pas au sol, elle ne quitte pas le royaume.
Mais après ce carnage, les États-Unis, est-ce qu'ils vont revoir ou pas leur coopération, leurs alliances avec l'Arabie Saoudite ?
Alors moi, je pense que c'est pas après ce carnage, parce que les États-Unis, comme d'ailleurs les puissances, hein, de façon générale, ont l'humanisme à géométrie très variable. Donc lorsqu'il y a beaucoup de pétrole, on passe sur un certain nombre de problèmes. En revanche, on a vu ces dernières années les États-Unis tenser fortement l'Arabie Saoudite du point de vue surtout de son irresponsabilité dans l'aide et dans le soutien à des groupes fanatiques, hein, Daesh, si vous voulez, la matrice idéologique et financière de Daesh dans un premier temps, avant qu'évidemment le monstre se retourne contre son créateur, c'est quand même le wahhabisme au pouvoir en Arabie Saoudite.
Juste un mot avant qu'on se retrouve dans un instant, l'Arabie Saoudite et le japonais SoftBank, hein, qui est un géant des télécoms, qui annonçait en fin de semaine la création d'un fonds techno de 100 milliards de dollars. Hein. Riyad, comme ça, qui continue de diversifier donc ses investissements un peu, voilà, je reprends l'expression de Mohammed bin Salman, le vice-prince héritier, qui est un petit peu à la manœuvre, un peu se désintoxiquer de la dépendance au pétrole, Frédéric.
Oui, et ils arrivent assez tard comme dans cette démarche, parce que ce sont les Émirats Arabes Unis qui, les premiers, voilà déjà une bonne quinzaine d'années, alors que le baril était très élevé, hein, ont commencé à jouer davantage sur la valorisation du high-tech et sur des investissements autres que les hydrocarbures.
Jean-Christophe Ploquin.
Et pour le moment, on ne sait pas si les Saoudiens, la population saoudienne, est prête à rentrer dans cette dynamique-là d'une économie numérique. Hein. On sait que les Saoudiens eux-mêmes sont pas, n'ont pas des fonctions très productives. Souvent, ils sont employés dans la puissance publique, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'ils vont arriver en interne, en Arabie Saoudite, à générer cette économie-là? C'est un peu problématique.
Frédéric, oui, ce que dit en termes diplomatiques Jean-Christophe Ploquin, c'est qu'ils foutent pas grand-chose et qu'ils sont... Voilà, très bien, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que, justement, ce tournant peut être suivi?
Ah, moi, j'y crois difficilement, parce que vous savez, en amont, on est sur du culturel, on est sur du sociétal. J'ai pas dit du génétique, on est sur du culturel. Hein. Vous savez, les royaumes bédouins, jusqu'à présent, en tout cas, encore une fois, avec les Émirats Arabes Unis étant peut-être un cas un petit peu à part. Mais les royaumes bédouins n'ont jamais été connus pour valoriser le savoir, et notamment pas le savoir scientifique. Hein.
7 jours dans le monde avec Frédéric Ancel, Jean-Christophe Ploquin, à suivre dans un instant sur BFM Business. Déballage tous azimuts dans la campagne américaine. On revient vite. Hein.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Avec deux bons spécialistes, il y a Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, qui anime le blog Paris Planète, hébergé sur le site de La Croix. Et Frédéric Ancel, qui vous propose depuis deux semaines, hein, c'est tout nouveau, profiter du week-end, géopolitique de la nation France avec son maître en géopolitique, qui est Yves Lacoste. Alors avant de revenir sur cette campagne présidentielle américaine, qui pue, hein, clairement, on va le voir, on va l'entendre dans un instant, un mot encore sur une autre tension cette semaine. On évoquait la fâcherie entre Paris et Moscou. Brouille, Paris avec Varsovie. La Pologne, en effet, qui renonce à acheter 50 hélicoptères de combat Airbus Caracal au profit de Black Hawk américains fabriqués sur place. Ce sur quoi, justement, insistait la première ministre polonaise.
Comme je l'ai dit hier, nous voulons des équipements militaires pour l'armée polonaise fabriqués en Pologne par des travailleurs polonais. Nous souhaitons donc que nos entreprises puissent livrer des équipements aux soldats polonais. Nous pensons que cette approche garantit notre sécurité. Cela fait partie de la vision de mon gouvernement d'une économie nationale. Nous voulons que les entreprises polonaises, ainsi que celles qui ont des liens avec notre pays, prospèrent et donne du travail aux Polonais.
Tu Voilà, donc la Première ministre de Pologne, prétexte sûrement, puisque Airbus, justement, avait voulu produire ses caracals également en Pologne. En tout cas, Tom Enders, le PDG d'Airbus, il est en colère. Il estime avoir été mené en bateau pendant des mois, alors qu'il voulait lui aussi investir en Pologne. Jamais on n'a été traité comme ça. Voilà, c'est rare quand même que M. Enders parle de la sorte. Hein, le désaccord, Jean-Christophe Ploquin, bon, il porte officiellement sur des compensations industrielles que la France voulait offrir à la Pologne. Pourquoi exactement le gouvernement ultra-conservateur qui est au pouvoir maintenant depuis un an, justement, a claqué la porte aux Européens en choisissant les Américains?
Il assume un renversement d'alliance, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années que la France et l'Allemagne souhaitaient développer une relation avec la Pologne en matière de défense, et c'était surtout le projet de la France. Donc cette coopération et cette coopération sur la vente d'hélicoptères était l'une des pièces maîtresses. Elle avait été identifiée depuis 2-3 ans comme étant un peu l'axe structurant de cette relation très forte, et avec derrière la possibilité...
Weimar, hein, vraiment,
ouais, c'est
ça.
Et derrière, c'est la possibilité
entre France, Allemagne et Pologne.
De construire une Europe de la défense, ouais, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais voilà, c'était l'un des jalons que la France souhaitait poser. Les autorités, le gouvernement polonais précédent était entré dans cette logique-là. Et donc, vous avez ce nouveau gouvernement depuis moins d'un an. Et là, voilà, il a délibérément manifesté que ce projet un peu de construction européenne, d'alliance européenne, finalement, était pour lui secondaire par rapport à une relation extrêmement forte avec les États-Unis. C'est quelque chose qui avait existé pendant 15 ans en Pologne après la chute du mur. Les Français, les Allemands avaient réussi finalement à attirer et à convaincre les Polonais qu'il y avait un avenir dans un objectif de défense européen commun. Et donc ce nouveau gouvernement, dirigé par M. Kaczynski, en arrière-boutique, oui, hein, puisqu'il n'est pas, il n'est ni président ni premier ministre, mais c'est vraiment lui qui est le vrai patron, donc vient de privilégier la relation avec les États-Unis.
Et pendant la campagne électorale, il y a un an, ils avaient prévenu, hein, clairement, Frédéric Ancel. Hein.
Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un renversement d'alliance ou d'une poursuite d'alliance? Car je rappelle qu'en 2003 et 2004, déjà,
oui, absolument.
Au moment où les 10 États d'Europe orientale rejoignaient, les Polonais avaient crânement acheté des chasseurs-bombardiers américains, de préférence aux chasseurs-bombardiers européens et français en particulier.
Et fait bondir Jacques Chirac à l'époque.
Évidemment. Et moi, je me souviens très bien d'un colloque au Sénat à l'époque en 2003 où Guérémec, qui était francophile, francophone, qui avait été ministre, bien évidemment, nous disait, mais vous vous rendez compte, ici, nous, en Pologne, pour nous, les Polonais, l'Union européenne, c'est la prospérité, mais l'OTAN, c'est la survie. Ouais. Et l'OTAN, au sens américain du terme, bien évidemment, la survie. Et la survie, pourquoi? On en revient toujours à la même problématique.
La menace.
La Russie devant. Voilà. La Russie devant. Et ça, les Polonais qui sont, enfin la Pologne qui est le poids lourd de ces 10 États d'Europe orientale, la Pologne est en même temps le fer de lance, hein, de la politique, on va dire, enfin hostile ou en tout cas adverse à la Russie. Il lui faut des bons matériels, mais surtout ces bons matériels ne sont qu'en quelque sorte l'illustration d'une alliance politique très précieuse aux yeux des Polonais qu'évidemment l'alliance américaine.
Et peut-être que le nouveau gouvernement considère que la France, elle ne fait pas assez justement.
Exactement, c'est ça.
À l'est, à la frontière est. Pour bien parer éventuellement.
Alors c'est sûr que les
États-Unis, invasion russe.
Les États-Unis ont répondu présent, hein, depuis la crise ukrainienne. Donc il y a l'OTAN est en train de constituer des bases avancées finalement en Pologne notamment, et les Français ils sont quand même justement très pris par le Sahel, très pris par le Moyen-Orient. Ils n'ont pas les moyens très franchement d'être très présents avec les Polonais, avec les pays baltes autrement que par des moyens aériens de temps en temps. Et donc effectivement finalement, l'alliance avec les États-Unis paraît aujourd'hui évidemment plus sûre pour les Polonais qu'une alliance avec la France.
On peut se fâcher à la fois avec la Russie et la Pologne, c'est bien dans le contexte actuel, Frédéric Ancel, ça fait beaucoup, non?
Non, on peut se fâcher avec beaucoup de monde, le problème c'est que ça donne pas grand-chose. C'est-à-dire quels seront les résultats, quelles seront les conséquences. Alors cela dit, c'est une fâcherie de nature différente, hein. Avec la Pologne, je dirais que c'est davantage de l'amertume, et c'est aussi l'amertume de liée à l'affaire des migrants. Alors on pourra en reparler une prochaine fois, mais enfin les Polonais comme les autres États d'Europe centrale et orientale, disent très concrètement non. Et là, nous avons aussi des problèmes de ce point de vue-là avec eux.
Ouais,
les Polonais, en quelque sorte, après, c'est le premier pays bénéficiaire des fonds européens.
Fonds européens structurels.
Donc, ils sont très pro-européens sur le plan économique. Ils ne croient pas à l'Europe politique et ils le montrent très clairement.
Bon, un mot, puisque vous connaissez bien aussi les questions de défense, hein, vous, ancien auditeur de l'IHEDN, Jean-Christophe Ploquin, quand Tom Enders parle comme ça en disant « on n'a jamais fait ça », c'est Paris et Berlin qui parlent aussi.
Exactement.
Ouais, tout juste. Hein. Bon, en tout cas, La Pologne, elle reste disposée à acheter des appareils Airbus, sorte de lot de compensation, Frédéric ?
Sans doute, parce que de toute façon, sur le plan militaire, hein, on vient de le dire, c'est l'alliance, l'illustration, la traduction de l'alliance avec les États-Unis face à la menace russe. Lorsqu'on parle civil, on est déjà plus dans le champ de la menace, on est moins dans le politique et on n'est plus du tout dans le militaire. Donc il pourrait s'agir effectivement d'une compensation.
Bon, alors voilà pour la Pologne. Aux États-Unis, on est à un peu plus de 3 semaines hein, maintenant du scrutin. La campagne, elle prend une drôle de tournure, hein, vous le savez, après toutes sortes de révélations touchant les deux candidats, principalement Trump, dont des propos graveleux sur les femmes en 2005 ont été exhumés. Trump accusé de harcèlement dans les années 90 par plusieurs victimes. Mensonge, prétend le candidat, le milliardaire lâché par une partie de son camp, par des pointures du Parti républicain, accusé par le couple Obama. Ça suffit, disait Barack, quand Michel le qualifie de prédateur sexuel. Vous voyez, hein, ça va très très loin. Puis en face, c'est la messagerie du chef de campagne d'Hillary Clinton qui a été piratée, révélant des hésitations de la candidate dans des échanges entre conseillers. Pas toujours opportun, plutôt gênant justement. Alors dans ce contexte, évidemment, le deuxième débat télévisé dimanche soir, eh bien, s'est révélé violent, sans concession, Trump.
If I win, si je gagne, je vais demander à mon procureur général de déléguer un magistrat spécialement pour s'intéresser à votre cas. Et je vous le dis, si j'étais président, vous seriez déjà en prison. Des gens ont vu leur vue détruite pour le cinquième de ce que vous avez fait.
Fifth of what you've done.
Voilà, alors que Trump qui menace de tôle Hillary Clinton, super classe, hein, c'est l'histoire des mails notamment. Hillary Clinton, elle fait du scrutin, eh bien une sorte de référendum quelque part, pour ou contre Trump.
Ça fait du bien de se dire que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump n'est pas en charge des lois dans notre pays. Je sais que vous faites diversion ce soir, Donald, pour éviter que l'on parle de votre campagne, comment elle est en train d'exploser et comment tous les républicains sont en train de vous lâcher.
Bon, super la forme, la tournure de ce débat télévisé. Alors, chez nous, les Copés, NKM, Fillon, on ne parle pas tellement de sexe, pas du tout même. Hein, on a vu ça donc jeudi soir. En tout cas, c'est le grand déballage aux États-Unis donc dimanche soir. Bill Clinton montré du doigt. Ça vole vraiment pas très haut hein, ces trois dernières semaines. Jean-Christophe.
Non, il est temps effectivement que la campagne se termine. C'est d'autant plus temps que ça se termine que c'est quasiment plié. C'est-à-dire que sauf catastrophe pour Hillary Clinton, ce sera la prochaine présidente des États-Unis. Je sais bien qu'on casse un peu le suspense en le disant comme ça, mais c'est quand même ça ce qui se profile.
Et donc, on en est vraiment sûr.
Oh, côté les sondages sont quand même Trump n'est jamais passé devant, enfin il y a quelques indications et on sait bien que quand on analyse état par état aussi la bascule elle est quand même assez acquise. Donc l'objectif suivant c'est quand même le Congrès des États-Unis, c'est est-ce que les démocrates vont garder quand même le contrôle du Sénat, est-ce qu'ils peuvent grappiller le plus de sièges possible à la Chambre des représentants,
sans doute qu'ils arriveront pas là. Ils veulent se rattraper quelque
exactement.
Part.
Exactement. Voilà. Mais ils sont vraiment pourquoi est-ce qu'il y a tant de leaders républicains qui lâchent Trump, c'est parce que justement il y a ces élections au Congrès qu'il faut pouvoir assurer et que Trump est en train de dissuader des électeurs républicains d'aller voter. Il y a un État comme l'Arizona par exemple où John McCain devient très inquiet parce que les électeurs républicains sont tellement dégoûtés par Trump qu'ils ne vont pas voter, les grands électeurs finalement ceux qui postulent pour le siège au Sénat ou à la Chambre des représentants au Sénat en Arizona risquent eux-mêmes finalement de perdre.
Oui, ça fait de longs mois que, je le dis sincèrement, en toute modestie, que je pronostique Clinton simplement sur la base de ce qui s'est produit ces dernières décennies. Jamais un candidat aussi outrancier n'est devenu président des États-Unis. Alors, ça pourrait, il y a toujours une première à tout phénomène. Mais enfin, là, il est allé très loin et il n'a jamais réussi à basculer de la traditionnelle et compréhensible éthique de conviction, où on est dans la posture au sein de son propre parti, manifestement ça a bien marché, à l'éthique de responsabilité. Ça, c'est du Max Weber, hein, j'invente rien. Il le fait pas. Or, une élection se joue globalement plutôt au centre. Et il continue dans l'outrance, et j'ai même envie de dire qu'il va plus loin encore qu'il ne l'a fait ces derniers mois, dans l'outrance face à une candidate qui, elle, n'est pas à l'extrême gauche du Parti démocrate, elle est à droite du Parti démocrate, autrement dit, elle est centriste. Et puis, malgré tout, elle a un bilan. Alors, le bilan, on peut toujours en discuter, mais lui aurait dû ou devrait, admettons que c'est pas terminé, mais je suis d'accord avec Jean-Christophe, je pense que c'est plié, mais il aurait dû, me semble-t-il, essayer plutôt de la coller au centre. C'est quand même sans précédent. Le fait, de là, vous avez dit, ça pue, c'est très bas, vous avez raison, c'est sincèrement sans précédent depuis en tout cas le début des débats télévisés dans les années 60. Ça, c'est une certitude.
C'est François Hesbourg, la semaine dernière, qui était à votre place, hein, dans 7 jours dans le monde, sur BFM Business, qui nous parlait de la surprise d'octobre. Hein. Voilà, c'est une tradition qu'on peut voir dans plusieurs campagnes américaines. Voilà. Un élément qui arrive comme ça. Le mois, il n'est pas fini encore. Hein. Qu'est-ce qui peut encore se passer? Parce que Trump...
Une fuite de WikiLeaks qui serait particulièrement confondante pour Hillary Clinton. Ah, voilà. Pour moi, c'est la seule chose qui peut encore faire dérailler Hillary Clinton. Mais sinon, l'analyse, encore une fois, état par état, elle est quand même assez claire.
Et surtout au niveau des swing states. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 8, 9, peut-être 10 états au maximum qui vont basculer. Et pour l'instant, ils sont très résolument démocrates.
Hein. Mais le fait que le parti républicain se rebelle, parce que c'est quand même un fait inédit même. John McCain, quand on voit 40 élus qui lâchent Trump, on voit le parti républicain qui semble regretter quelque part le choix qui a été fait depuis le début de l'année, et puis lors de la convention donc du mois de juillet. Trump, il peut aller jusqu'au bout. À un moment, ils peuvent dire, ou c'est trop tard maintenant, dire, tiens, il y aura une solution de remplacement.
Non, c'est trop tard.
C'est trop tard.
C'est trop tard, mais je vous dirais que quelque part, c'est une très bonne nouvelle du point de vue de la santé de la démocratie américaine. Oui. Le fait qu'une partie importante des élites du Parti républicain décide de le lâcher. Là, on est réellement... Alors, bien sûr, c'est électoraliste en même temps, puisqu'on pense au coup d'après, très important, qui concerne bien sûr le Sénat et la Chambre des représentants. Mais en même temps, d'un point de vue moral, c'est quand même très, 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 très satisfaisant.
Est-ce que vous dites le mot élite, justement, Jean-Christophe Ploquin, malgré tout, les électeurs républicains de base, vraiment, les bons électeurs républicains de base, ils vont continuer de voter pour lui.
Alors, un certain nombre.
Peu importe qu'il ait dit pique-pendre sur les femmes, peu importe que les élus républicains le lâchent, il a quand même une base.
C'est pour ça qu'il continue dans cette voie extrémiste. Ouais. C'est qu'il est convaincu que c'est comme ça qu'il va garder son noyau d'électeurs blancs, classe moyenne, avec un sentiment de déclassement. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à élargir au-delà de ce noyau-là. Et donc, plus il avance, plus il se garantit ce noyau, et moins il arrive à drainer d'autres forces de l'électorat, et notamment du côté des minorités, les hispaniques, y compris justement dans un pays comme l'Arizona. J'y pense parce que je suis un peu ce que fait John McCain. Il est très inquiet du vote des hispaniques dans son État. Et évidemment, la communauté noire va vraiment fuir Donald Trump. Donc, vraiment, il est isolé sur ce socle qui fait peut-être 30-35% des voix, mais qui n'est pas suffisant.
Un mot quand même sur le couple Obama très engagé contre Trump. Avec Michelle Obama, c'est une première depuis 2008. Elle a pris la parole, elle est très investie, je disais, elle parle de prédateurs sexuels. C'est nouveau, ça, Frédéric Ancel.
C'est nouveau et c'est très important, car les Obama finissent avec, je parle bien du couple, avec une bonne cote, globalement. Hein. Ouais. Les républicains n'ont jamais cessé de tenser Barack Obama. D'ailleurs, c'était de bonne guerre politique. Mais enfin, fondamentalement, les enquêtes d'opinion lui ont toujours été favorables. D'ailleurs, il était réélu il y a 4 ans, ça n'aurait échappé à personne. Et elle, Michelle Obama, a une réelle bonne cote. C'est une femme. Or, au regard des outrances sexistes de Trump, ça pèse beaucoup.
Un mot, Jean-Christophe.
Et il faut mobiliser l'électorat noir qui n'est pas à fond derrière Clinton.
7 jours dans le monde, donc, à suivre. Une succession difficile en Thaïlande après la mort du roi. On va voir ça sur BFM Business, à la télé, à la radio. Et puis les islamistes marocains prolongés, donc, au pouvoir. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes sur BFM Business, à la télé, à la radio, 7 jours dans le monde, toujours avec Frédéric Ancel, avec Jean-Christophe Ploquin. Le Maroc, avec les islamistes du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, reconduit après leur victoire aux législatives le week-end dernier. Le Premier ministre Abdelilah Benkirane, il se succède à lui-même.
Aujourd'hui, la démocratie a gagné. Et aujourd'hui, le PJD, après avoir dirigé le gouvernement depuis 5 ans, après avoir lancé les réformes, après les avoir réalisées, après avoir géré le budget et les réformes, avec notamment le fonds de retraite, après des manifestations spontanées, après avoir tenu nos engagements, après avoir élargi la couverture santé, après tout ça, merci à Dieu, aujourd'hui les Marocains ont donné au PJD la victoire.
Avec un objectif donc pour le Premier ministre marocain, continuer la réforme. Frédéric Ancel, quelle réforme justement, dans quelle direction? C'est quoi déjà les islamistes, on parle beaucoup d'islamistes, à la sauce marocaine quand même.
Ce sont des pragmatiques, très important de le dire, de le rappeler, des pragmatiques qui jouent le rapport de force politique et institutionnelle avec le roi de façon intelligente, car ils savent que le roi ne peut pas, ne va pas tomber, qu'il est extrêmement populaire, pas tant d'ailleurs Mohamed VI qui y est le populaire objectivement, mais la dynastie. Au-delà de ça, parce qu'elle descend du prophète, d'une part, parce que c'est une dynastie qui n'a jamais permis à aucune puissance de coloniser le Maroc. Le seul pays arabe, la seule société arabe à n'avoir jamais été dominée soit par les Turcs, soit par les Occidentaux, c'est le Maroc. L'IOTA n'est absolument pas vu, comme on le sait, comme un colonisateur. Ça, c'est un point important. Deuxième point important, ce sont des gens qui ont compris, enfin, allais-je dire, que le social, il fallait pas s'en moquer. Regardez ce qui s'est passé en Égypte pendant un an, 2012-2013. Morsi arrive au pouvoir, c'est un frère musulman. Aucune réforme, rien.
Et les islamistes s'en vont.
Mais ils s'en vont, voilà, à coup de pied aux fesses par Al-Sisi, par les militaires. Et par une grande partie de la rue d'ailleurs. Parce que la seule réforme qu'ils avaient entamée, c'est une réforme concernant le voile à l'école pour les petites filles. Le voile, ça ne se mange pas. Et au Maroc, il y a une réelle pondération de la part de ces islamistes quant aux dossiers sociaux et économiques. Et ils sont, si vous voulez, ils font acte de compétence. C'est aussi bête que ça. Et regardez la croissance marocaine, qui est une croissance relativement saine. Elle n'est pas rentière. Il y a quand même assez peu de pétrole et de gaz naturel. En fait, il n'y en a pas du tout. Bon. Donc, on est sur une base qui est quand même beaucoup plus, je reprends mon terme, pragmatique que dans les autres pays arabes. Et je crois que c'est pour cette raison-là. Pas tellement pour des raisons identitaires ou liées à l'islam.
C'est pour ça.
Qu'ils ont été réélus. J'en suis convaincu.
Oui, d'ailleurs, ils ont disparu d'Égypte, ils ont disparu de la Tunisie, où les islamistes également ont échoué sur le social. Juste, comment ils travaillent, les islamistes du PJD, avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI, justement? Il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord, nécessairement. Ils ont une marge de manœuvre?
Alors, ils ont une marge de manœuvre relativement importante, sachant que le roi, lui, conserve tous les aspects régaliens de la politique et des institutions, à savoir, bien évidemment, défense, affaires étrangères. Alors, grandes orientations économiques générales, en quelque sorte. Imaginez une espèce de cohabitation à la française, mais dans laquelle, tout de même, le président aurait un peu plus de poids qu'il n'a en France lors des cohabitations qu'on a vues en 86-93. Voilà, on est à peu près sur ce mode de fonctionnement, avec peut-être, cerise sur le gâteau, un mode plutôt allemand que français en termes de négociation, en termes de consensus.
Comprends bien, ouais.
Voilà, plutôt que de façon permanente.
Jean-Christophe Ploquin, la Croix.
Ce qui était intéressant dans l'extrait, c'est qu'il parlait à la fois réforme de la santé, réforme des retraites, effectivement, donc on est bien dans le social. Et par ailleurs, effectivement, les islamistes marocains du PJD, parce qu'il y a d'autres islamistes qui sont pas dans le jeu parlementaire, mais celui-là joue le jeu parlementaire et donc se soumet à l'autorité du roi, et notamment se soumet au fait que, en matière d'islam, en matière de religion, celui qui donne le là, c'est le roi. Et qui défend d'ailleurs une vision moderne de l'islam. On se souvient de son discours il y a trois semaines à peu près, lorsqu'il défendait vraiment un islam d'ouverture. Donc le PJD a su se nicher finalement dans le système parlementaire marocain sans trop titiller le roi.
Alors pour finir, des millions de Thaïlandais en noir, donc après l'annonce de la mort du roi Bhumibol Adulyadej. Il avait 88 ans, il était au pouvoir depuis 70 ans. Avec les télés de Thaïlande qui émettent en noir et blanc maintenant depuis donc quelques heures, quelques jours maintenant, depuis jeudi. Comme au Maroc, voilà, quelque part, le roi, il était le ciment de la cohésion nationale. Limite comparé à un dieu, Jean-Christophe Ploquin.
Et oui, et donc on comprend que effectivement dans ce pays, la disparition du roi soit perçue avec tristesse, peut-être un petit peu d'angoisse aussi, parce que finalement il y a deux institutions qui font l'unité de la nation thaïlandaise, c'est la monarchie et c'est l'armée. Et aujourd'hui, la monarchie donc est fragilisée avec ce roi qui aura tenu au maximum jusqu'à un âge très avancé, un héritier dont la capacité à assumer ces nouvelles fonctions finalement sont un peu questionnées.
Il a 64 ans, beaucoup d'incertitudes.
Exactement, il vit pas vraiment en Thaïlande. Et donc aujourd'hui, c'est l'armée qui plus que jamais va jouer ce rôle d'unité nationale.
L'armée qui est au pouvoir depuis deux ans à la suite d'un coup d'État.
Et sachant qu'elle est en même temps un peu partisane. Elle n'est pas au-dessus des partis. Elle est adossée à un parti et adossée finalement à certains clans finalement familiaux et économiques thaïlandais. Et donc la disparition de ce facteur d'unité pourrait amener du trouble aujourd'hui en Thaïlande.
Ah oui, Frédéric Ancel, cette longévité, je disais 70 ans de règne, continuité bien sûr, mais peut-être source de blocage de paralysie. Et on a vu justement un certain nombre de crises hein, tout au long du règne du roi, qui s'est terminé justement par ce coup d'État en 2014.
Oui, parce qu'il régnait, mais il ne gouvernait pas.
Voilà.
Et donc, c'est formidable d'être considéré et vénéré comme un demi-dieu, sauf que vous n'avez absolument pas les prérogatives très concrètes, très prosaïques entre les mains. J'ai presque envie de rappeler un parallèle en Asie orientale également avec Hirohito, hein, qui était resté très très longtemps, décennies au pouvoir, oui, et qui avait été, après la catastrophe, le cataclysme de la défaite ou de la Seconde Guerre mondiale, qui était resté au fond à l'époque comme l'un des uniques ciments de la nation japonaise et que les Américains avaient eu l'intelligence de conserver en tant qu'institution.
Alors, incertitude politique, incertitude économique avec des investissements étrangers qui sont en chute libre, une croissance en repli par rapport aux autres pays de la région. Puis incertitude sur le tourisme également, Jean-Christophe Ploquin, on va se quitter
là-dessus. Oui, parce qu'effectivement, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a des tensions, qu'il y a eu des manifestations très importantes, qu'il y a eu des morts lors de ces manifestations. Et donc, effectivement, l'image de la Thaïlande est bien différente de celle qu'elle avait il y a 15 ans.
Merci Jean-Christophe Ploquin, donc rédacteur en chef dans le quotidien La Croix qui anime le blog Paris Planète. Allez voir les propos, les écrits plutôt de Jean-Christophe Ploquin. Il est hébergé sur le site de La Croix. Et puis pour ce week-end également, allez, vraiment obligatoire, hein, je le disais, Géopolitique de la Nation France, signé de Frédéric Ancel avec Yves Lacoste. Merci à tous les deux. 7 jours dans le monde, c'est fini sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.